Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
18h19, l'heure de retrouver notre invité sur Europe 1. Bonsoir Damien Abad.
Bonsoir.
Président du groupe Les Républicains à l'Assemblée. Alors vous avez écouté, bien sûr, comme nous Emmanuel Macron, dévoiler à la mi-journée sa stratégie de lutte contre l'islamisme radical. Il a choisi de le faire au Mureau, dans les Yvelines. Avec plusieurs annonces, on va y revenir, un plan qui sera présenté le 9 décembre en Conseil des ministres. Damien Abad, certains, à droite, dans votre camp, lui avaient reproché à Emmanuel Macron d'avoir du mal à prononcer le mot islamisme. Cette fois, il a clairement pointé l'ennemi, sa cible c'est l'islamisme radical. Ce soir, vous applaudissez ?
Oui, d'abord, les reproches que nous avons faits au président de la République étaient justifiés parce qu'attendre 3 ans pour évoquer la question de l'islamisme radical, qui est une question centrale, hein, puisqu'elle fracture la République française aujourd'hui, c'était beaucoup trop long. Donc aujourd'hui, le discours du président de la République a eu un mérite, c'est celui effectivement de mettre les mots et d'évoquer le séparatisme islamiste et la lutte contre l'islamisme radical. Et d'ailleurs, ça prouve que quand, dans son projet de loi, il évoque la question des séparatismes, on voit bien que finalement, l'essentiel des mesures, et c'est tant mieux, sont concentrés sur la lutte contre l'islamisme radical, ce que nous disons depuis le début chez les Républicains.
En tout cas, vous lui avez reproché de ne pas le dire, il l'a dit. Est-ce que vous avez été convaincu ? Est-ce que pour vous, le compte y est, Damien Abad ?
Écoutez, vous savez, dans ce discours du président de la République a eu un double mérite. D'abord, le premier, c'est effectivement de mettre des mots, notamment le terme d'islamisme radical, ce qui était important, tardif mais important. Et puis, il a eu le mérite aussi de ne pas tomber dans des caricatures et de bien différencier l'islamisme radical de la pratique modérée de l'islam faite par le musulman modéré. Après, vous savez, on a tellement été échaudés par des grands discours grandiloquents que désormais, nous veillerons aux actes. Et c'est là où le bas blesse, c'est là où on verra si le projet de loi sur le séparatisme, qui sera présenté avant la fin de l'année, ira jusqu'au bout de ses intentions. En tout cas, on sera une opposition qui sera dans la vigilance, dans la responsabilité, et on ne rappellera pas de rappeler au président de la République ses engagements, parce que je me souviens du discours des Bernardins en 2017 et finalement du peu de traductions concrètes que ça a eu en actes et en loi. Et donc aujourd'hui, eh bien, on jugera le président de la République pas simplement sur son discours et ses mots, mais surtout sur ses actes et ses responsabilités.
Vous jugez sur les actes donc, mais on entend quand même entre les lignes que vous lui décernez un bon point ce soir. Alors, parmi les annonces qu'a fait Emmanuel Macron ce matin au Mureau, l'une des plus fortes peut-être, c'est celle de la fin de l'enseignement à domicile. On découvre qu'il y a des milliers d'enfants, plus de 50 000 apparemment, qui sont déscolarisés aujourd'hui par choix, à qui on fait l'école à la maison. Ils vont devoir retourner à l'école, ces enfants, dès 3 ans. Plus d'écoles clandestines également qui peuvent conduire à des dérives. C'est une bonne mesure pour vous, Damien Abad ?
Oui, c'est une bonne mesure, elle est nécessaire. Mais là aussi, l'application sera difficile parce qu'il y a 50 000 enfants qui aujourd'hui sont dans ce processus de déscolarisation. Et dans le même temps, on sait qu'il y a aussi un certain nombre d'enfants qui le font parce que soit ils suivent des sections sportives, soit ils sont engagés dans d'autres choses.
Donc, il y aura peut-être des exceptions pour ces enfants, on verra, oui.
Oui, mais c'est là où on verra justement jusqu'où la loi ira parce que dans les 50 000, il faut voir combien de personnes vont être concernées. Il y aura certainement beaucoup d'exceptions et donc à la fin des fins, il faudra juger,
voir combien d'enfants seront concernés. Un meilleur contrôle
oui,
également
des... Mais par contre, c'est une bonne mesure.
Bon, un meilleur contrôle également des écoles hors contrat ?
Oui, également, je pense que ces mesures-là, elles sont attendues, elles sont demandées par la droite républicaine depuis très longtemps. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que ce soit sur les écoles hors contrat, on a besoin d'avoir un contrôle du financement, un contrôle de la manière dont les cours se déroulent. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une attente forte, on le sait, pour qu'on évite ces ruptures, ce communautarisme qui existe en France. Et donc, toutes ces mesures qui ont été annoncées sont des mesures qui vont dans le bon sens, mais il y a aussi des angles morts, des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été évoquées et qui manquent certainement dans le futur projet de
loi. C'est-à-dire, de quoi voulez-vous parler ?
Par exemple, je pense qu'il y a besoin de faire nation, il y a besoin d'une cohésion de la nation qui soit plus importante. Et nous avons mis une proposition sur la table, c'est par exemple la question du service à la nation. On n'entend plus le président de la République parler du SNU, le service national universel, qu'il avait promis et qui ne fonctionne pas aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'encadrant, il n'y a pas d'éducateur, alors que c'est un moyen efficace de renforcer la cohésion de la nation. Et donc là, rien là-dessus. Moi, j'aurais souhaité qu'on puisse s'engager, que la nation française s'engage sur un service à la nation. Rien non plus sur la question migratoire. On le sait, les sujets migratoires sont importants et on le sait aussi que ça a des conséquences sur l'évolution de l'islamisme radical. Et là aussi, on a le sentiment finalement d'une espèce d'omerta et une omerta qui est regrettable par rapport à ce que le président de la République a pu dire aujourd'hui.
Damien Abad, Emmanuel Macron veut aussi contrôler le financement des mosquées. Ça aussi, la droite le proposait. C'est ce que vous appeliez de vos voeux en fait, hein.
Oui, complètement. Vous savez, c'est pour ça, c'est que de temps perdu. Et malheureusement, c'est une course contre la montre à laquelle nous devons faire face. C'est un combat de tous les instants. Et bien sûr, le renforcement des contrôles des mosquées, de la question de la formation des imams, de la question également des fermetures administratives ou des permis qui sont autorisés ou pas pour les mosquées. Je crois qu'il y a des points qui sont importants. La loi ne peut pas tout résoudre, mais elle devrait nous permettre d'aller plus loin, notamment en donnant les préfets la capacité de suspendre des arrêtés municipaux lorsqu'il y a des complaisances d'un certain nombre d'élus locaux. Voilà, je pense que ce sont des outils qui sont nécessaires, mais ensuite, il faut vraiment une volonté politique. Et c'est là où on va attendre le président de la République. C'est est-ce que la volonté politique du président, qui l'a affirmé aujourd'hui, sera la même de la part du garde des Sceaux? Est-ce que ça sera la même de la part de cette majorité, de La République En Marche, qui est une majorité qui vient de la gauche? C'est là où le doute subsiste et c'est là où on verra lors de la discussion si les promesses seront réellement tenues.
Alors ça tombe bien parce que ça va être débattu au Parlement. Quels sont les amendements que vous allez proposer?
Écoutez, nous aurons des amendements sur beaucoup de projets de loi, d'articles de ce projet de loi. D'abord parce que nous sommes une position responsable et nous, on est une force de proposition. Donc sur le service à la nation, sur la question des contrôles des flux migratoires, sur la question aussi de l'asile et migration, parce qu'on voit que la loi asile et migration n'a pas bien fonctionné, on l'a vu malheureusement encore sur les mineurs non accompagnés. Et puis des amendements aussi pour préciser les choses sur les propositions qui ont été faites par le président de la République. Je pense sur la question de la dissolution des associations, des contrats de valeur de la République qui devront être faites, sur la question aussi des imams. Ce sont tous des sujets sur lesquels nous travaillons avec les députés et les républicains depuis longtemps. Éric Diard avait fait un rapport sur la radicalisation dans les services publics. Et je pense que là aussi, il faut qu'on aille plus loin sur la question des services publics. Aujourd'hui, on constate malheureusement trop de faits délictueux et de signes de radicalisation dans nos services publics. Et donc, nous proposerons des amendements. Et on a
Ça veut
envie de
dire
dire
qu'en
au président de
l'État,
la République,
vous n'êtes
écoutez,
pas prêt à la voter en l'État, cette loi, Damien Abad?
on verra, écoutez, pour le moment, on n'a pas vu le texte. Donc, difficile de s'exprimer sur le vote d'un texte qu'on n'a pas vu. On a un discours dont moi j'ai salué le fait qu'il y avait des mérites dans ce discours, une avancée réelle, il faut le dire, et pas avoir peur de le dire. Mais en même temps, on le sait, on a souvent été déçus. Et derrière, les actes n'ont souvent pas été suivis des faits. Et donc, c'est là où on jugera. Donc, le vote, on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on aura des propositions, on va les mettre sur la table. Et on verra si le gouvernement s'enferme dans ses contradictions permanentes ou s'il a le courage d'aller jusqu'au bout dans ce combat contre l'islamisme radical.
On verra, c'est votre message, on a bien compris. Merci beaucoup, Damien Abad, député Les Républicains de l'Ain, président du groupe LR à l'Assemblée, d'avoir été notre invité ce soir sur Europe 1.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
18h30, c'est le rappel des titres avec vous, Christophe Lamarre.
Le plan Orsec déclenché dans les Alpes-Maritimes. Des trombes d'eau s'abattent en ce moment sur le département qui a été placé en alerte rouge pluie-inondation. Le pic est attendu entre maintenant et 20h. À Nice, la promenade des Anglais a été fermée. Tous les TGV à destination de la cité niçoise ont été arrêtés à Toulon. Le discours d'Emmanuel Macron sur le séparatisme et la laïcité. Le chef de l'État promet une loi rapidement. L'islamisme radical est le cœur du sujet, affirme le président de la République. Parmi les propositions qu'il souhaite voir adoptées, obligation de neutralité renforcée dans les services publics, notamment les transports. Les associations qui demandent des subventions devront s'engager sur une charte de laïcité. La fin de la formation des imams à l'étranger, autre annonce forte, la fin de la scolarisation à domicile, sauf pour raison de santé. Les enfants devront tous aller à l'école dès 3 ans. Le projet de loi contre les séparatismes sera présenté le 9 décembre en Conseil des ministres. Et les réactions politiques sont contrastées ce soir. Ce texte sera un coup pour rien pour le député LR Éric Ciotti. Jean-Luc Mélenchon pour la France Insoumise fustige le caractère hypocrite et malfaisant du discours d'Emmanuel Macron. Le PS admet que les propositions évitent le piège de la stigmatisation de toute une religion. Mais son patron Olivier Faure regrette l'absence d'inflexion de la politique économique et sociale du gouvernement.
Merci Christophe Lamarre. L'info revient avec vous à 19h avec un nouveau journal complet. On fait un point de nouveau sur la météo et c'est très important. Christophe l'évoquait à l'instant, Anissa, la météo et coup de projecteur en particulier sur le sud-est.
Oui, effectivement, cet épisode méditerranéen qui a commencé hier et qui touche particulièrement le sud-est, les Alpes-Maritimes, le Var, les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence, avec une conséquence de cette tempête Alex qui s'abat sur le sud. 9 départements, des Côtes d'Or jusqu'au Var, donc tout le long de la vallée du Rhône, sont placés en vigilance orange pluie-inondation. Prudence dans dans ces secteurs et les Alpes-Maritimes donc en vigilance rouge. Le fleuve, le Var étant cru, près de l'aéroport de Nice, soyez très prudents. Nous avons des vagues assez fortes actuellement sur la promenade des Anglais et le pic de cet épisode très pluvieux est prévu pour ce soir. Une accalmie devra arriver en deuxième partie de nuit. Prudence également dans le nord-ouest puisque la tempête Alex qui se disloque en plusieurs épisodes touche actuellement le Finistère avec des rafales de vent jusqu'à 120 km/h accompagnées de pluie évidemment.
Tempête qui a fait pas mal de dégâts déjà la nuit dernière dans le Morbihan. Merci Anissa, on vous retrouve à 19h pour un nouveau point complet sur la météo.
Europe 1, Isabelle Millet.
Et à 18h32, on ouvre ce soir le débat des grandes voix du vendredi. Avec à mes côtés en studio ce soir, Jannick Halimi, rédactrice en chef adjointe du service politique du Parisien. Bonsoir.
Bonsoir.
Guillaume Tabar, rédacteur en chef et éditorialiste politique au Figaro. Bonsoir. Et Sylvain Courage, rédacteur en chef de l'Obs. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Alors après un report de plusieurs mois, Emmanuel Macron a donc présenté aujourd'hui sa stratégie en matière de lutte contre le séparatisme islamiste. Le président qui a choisi de cibler clairement le séparatisme islamiste, il l'a dit, il l'a répété. Certains disaient qu'il allait noyer le poisson. Ça n'est pas le cas.
Non, son cabinet parlait des séparatismes, un discours sur les séparatismes. Et disons qu'une des surprises du discours, c'est effectivement qu'il était ciblé, centré sur l'islamisme radical, tout en étant prudent, c'est-à-dire en essayant d'éviter évidemment l'amalgame avec l'islam, avec la religion musulmane qui a droit de cité en France, évidemment.
Il l'a répété d'ailleurs à plusieurs fois, hein, pas d'amalgame surtout, on ne stigmatise pas les musulmans. Jannick Halimi.
Oui, absolument, c'est tout à fait ça. C'est un
texte. Vous a surpris ce ton et cette détermination?
Alors, ça m'a surpris, oui et non, parce qu'on savait que Emmanuel Macron avait beaucoup évolué, on y reviendra peut-être là-dessus, et qu'il n'était pas question aujourd'hui qu'il ne dise pas les choses, qu'il ne les énonce pas. Donc effectivement, de ce point de vue, ce n'est pas du tout une surprise. Et c'est vrai tout de même que Emmanuel Macron a beaucoup évolué. C'est vrai qu'au début, il ne voulait pas parler de l'islamisme
en tant
que tel. Oui,
c'est un changement de pied. Quand il était encore ministre face à Manuel Valls, il l'avait accusé de taper trop fort, justement, de stigmatiser.
Voilà, et même y compris au début de son quinquennat, ça n'est vraiment qu'avec les différents attentats qu'il y a eu pendant son quinquennat, notamment avec M. Beltrame et puis contre la préfecture de police de Paris. Il y a eu déjà son discours de Mulhouse à l'hiver dernier, qu'il a précisé les choses, si je puis dire, sans stigmatiser bien sûr l'islam, mais parler explicitement d'islamisme radical et de l'islam politique. Sauf qu'à l'époque, il était question de faire évoluer les choses, mais pas d'une loi, pas d'un texte qui serait un peu fondateur, j'allais dire, de la vision de la France, en tout cas de la sienne, vis-à-vis de ces séparatismes et des attaques contre la laïcité. Aujourd'hui, il parle d'une loi, il y a une loi, il est clair. C'est un texte qui a été négocié avec les différents partenaires de cette problématique, y compris les représentants de la religion musulmane. Je pense, on en reparlera peut-être plus tard, qu'il est relativement équilibré.
Il employait les mots justes, à votre avis, Guillaume Tabar ?
Oui, je crois que c'est intéressant. Vous avez souligné tous les deux l'évolution du ton personnel d'Emmanuel Macron, même s'il avait mis le mot séparatisme dans le débat lors de son discours de Mulhouse. Mais c'est vrai que là, il a voulu qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Et la petite musique de ces derniers jours, c'était justement ce fameux séparatisme au pluriel, pour bien montrer que ça n'était pas que l'islamisme qui était visé. Encore qu'on peut se demander quelle autre forme de séparatisme aujourd'hui met en péril la République ou recèle des menaces violentes ou terroristes. Donc là, il a dit clair, sa fameuse phrase, nommons-le, il a assumé. Mais il y a les mots, mais il y a aussi les mesures elles-mêmes. Et l'une des surprises, c'est quand même que dans la panoplie de mesures, Emmanuel Macron a été plus loin qu'on pouvait l'imaginer. D'abord, il a balayé tous les champs, les services publics, les transports, les associations, l'école, bien sûr, avec les annonces qu'il a faites, les perspectives sur la loi de 1905. Et même, vous disiez qu'il insistait sur la distinction entre l'islam et l'islamisme, évidemment, et ça, c'était une de ses grandes préoccupations, mais il était au bout de la logique en disant que l'une des questions qui était posée venait de ce qui avait une difficulté aussi à ce que l'islam en France puisse s'organiser sur des bases un peu renouvelées. Et là, ce chantier-là, il l'a également ouvert. Alors, un chantier périlleux. On se souvient que plein de ministres de l'Intérieur ou président de la République avaient tenté de s'y attaquer, toujours un peu en vain. Là, il remet en chantier la question.
C'est chantier,
il ratisse vraiment très
c'est
large.
C'est ce que vous avez trouvé, vous aussi, Sylvain Courage. Vous avez été surpris qu'il aille aussi loin?
Oui, plutôt surpris, même si on savait qu'il préparait depuis longtemps des mesures de ce genre, et notamment sur la fondation d'un islam en France, hein, pas de France, mais en France, où là, il avait peut-être, en arrivant au pouvoir, des idées un peu plus audacieuses que ce qu'il a développé, mais où il se heurte à beaucoup de difficultés techniques. Pour l'idée d'Emmanuel Macron, c'était d'essayer de conduire l'islam à se réformer par, disons, les aspects financiers, en s'intéressant au financement du culte. Et là, il n'y a pas grand-chose dans son texte là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de difficultés. Il y a moins de choses que prévu.
Alors, je propose qu'on marque une courte pause et puis on se retrouve. On va justement évoquer cette panoplie de mesures, notamment sur l'école ou également sur le financement des mosquées. On se retrouve dans un tout petit instant sur Europe 1. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Mieux.
18h39, retour avec les grandes voix d'Europe 1. On revient ce soir, bien sûr, sur le discours d'Emmanuel Macron, sur le séparatisme, limitation de l'école à domicile, fin de la formation des imams à l'étranger, contrôle renforcé des associations. Alors, messieurs, dames, parmi les annonces radicales, le président l'a dit lui-même, la suppression de l'éducation à domicile. C'est le mot qu'a employé Emmanuel Macron. Hein. La suppression de l'éducation à domicile pour éviter les dérives, les enseignements parallèles, les écoles illégales. Il y a quelqu'un qui connaît très bien le sujet que je voudrais qu'on écoute tout d'abord. Il s'agit de Jean-Pierre Aubin, qui est un ancien inspecteur de l'éducation nationale et auteur de « Comment on a laissé l'islamisme pénétrer à l'école ».
C'est une mesure vraiment révolutionnaire qui m'a surpris. Il était urgent d'agir dans ce domaine. Donc il y a aujourd'hui plus de 50 000 enfants qui échappent à tout contrôle et dont certains d'entre eux sont dans des écoles clandestines ou des écoles de fête, contrôlées notamment par les mouvements islamistes. C'est très important d'affirmer que ces enfants doivent être scolarisés, doivent être instruits à l'école.
Alors c'est un sujet clivant, même si ça concerne finalement assez peu de monde, 50 000 enfants environ. Vous trouvez ça, vous, révolutionnaire ?
C'est ce que tout le monde dit, parce que jusqu'à présent, la loi de 1882 instituait l'instruction publique obligatoire et non pas l'école publique obligatoire. Donc, de toute façon, il va falloir qu'il y ait un changement lourd des textes. Et on peut dire quand même que c'est un pas conceptuel extrêmement important dans la République et même dans l'organisation des pouvoirs en France. En tout cas, c'est reconnu comme tel. Et,
même si ça ne concerne que 50 000 enfants.
Oui, mais c'est en croissance. C'est une pratique qui se développait. Donc il s'agit, dans l'esprit du président, de freiner et de cesser de laisser ses enfants être soustraits à l'école pour recevoir une éducation dans le sein de la famille où, malheureusement, les valeurs religieuses, la séparation des garçons et des filles et toutes sortes de valeurs non républicaines peuvent être enseignées.
Le président qui veut aussi renforcer l'encadrement des écoles hors contrat, où là aussi, parfois, il peut y avoir des dérives, Guillaume Tabar.
Mais précisément sans toucher à la liberté d'enseignement, parce que, pour le coup, ça il l'a rappelé, il y a une liberté fondamentale qui est cette liberté d'enseignement. Vous savez que dans l'enseignement, il y a l'enseignement public, il y a l'enseignement privé sous contrat, qui répond à un certain nombre de règles, etc. Il y a l'enseignement privé hors contrat, qu'il soit confessionnel ou pas, il y a toutes sortes. Bon, et là, qui relève de la liberté des parents, que l'éducation donnée à leurs enfants reçoit une certaine coloration, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit religieuse ou autre. Et ça, c'est légitime. Il ne faut quand même pas oublier que l'école est quand même là avant tout pour transmettre des savoirs à un enfant, que l'éducation, ça reste quand même le rôle global des familles et des parents. Donc, on ne pouvait pas aller jusqu'à dénier aux parents le choix de choisir l'éducation de leurs enfants. Donc, ils préservent cette liberté-là à travers le hors-contrat et ils pointent clairement la manière dont un certain nombre d'associations islamistes ont utilisé les possibilités actuelles pour
les failles du système actuel,
tout à fait autre chose que l'éducation traditionnelle.
Alors, autre sujet dont on parle souvent régulièrement sur l'antenne d'Europe 1, le président a rappelé que l'islamisme radical s'est infiltré dans les compagnies de transport, la RATP, la SNCF, Aéroport de Paris. On a souvent soulevé ce problème, des passagères refusées sous prétexte qu'elles n'ont pas la tenue adéquate, des chauffeurs qui nettoient tout après le passage d'une femme. Dans ces entreprises, le président veut imposer la neutralité religieuse. Est-ce que c'est la bonne méthode selon vous?
En tout cas, c'est une méthode qui a été négociée, mais surtout, c'est la prise en compte que tous les rapports depuis des années soulignent, c'est que les politique de radicalisation et de prosélytisme de l'islam politique, pardonnez-moi, ne passe plus seulement et même de moins en moins par les mosquées, mais de plus en plus par les écoles qui ne sont pas sous contrat et puis dans l'éducation à domicile, par les associations et par sa diffusion effectivement un peu partout dans la vie publique, que ce soit dans les salles de sport ou effectivement au sein des entreprises. Alors ça semblait compliqué effectivement pour le président de la République de s'immiscer dans le fonctionnement ou dans les règlements intérieurs des entreprises privées. En revanche, il pouvait le faire pour des entreprises ou des établissements publics comme la RATP ou la SNCF, d'autant plus qu'il y a eu énormément... beaucoup d'affaires qui ont été soulevées récemment, vous vous souvenez, où des conducteurs de bus refusaient de passer, de prendre le volant après.
Là, il va plus loin.
C'est un changement de pied,
c'est
Guillaume Tabarin.
Qui exerce une délégation de service public, donc oui. Pas forcément des entreprises publiques. Et donc, c'est là où, sur le plan juridique, il faudra bien border le sujet parce que c'est pas évident.
Oui, c'est vrai. Mais effectivement, c'est très ambitieux et encore une fois.
Et c'est courageux.
Et c'est courageux et de toute façon, c'est une façon d'aborder l'ensemble de cette problématique par tous les bouts, par, encore une fois, les écoles, les associations, les entreprises, et puis aussi, donc par l'éducation, par les programmes, et par l'argent aussi tout de même. On parlait des associations tout à l'heure. Le fait d'inciter les associations, quelles qu'elles soient, notamment qui se disent culturelles, mais qui sont en fait culturelles, à choisir le statut de la loi de 1905, qui est beaucoup plus contrôlée parce que bénéficiant d'avantages fiscaux, est une façon aussi, par l'argent, de contrôler les circuits financiers qui financent des activités ou des discours, voire des programmes d'éducation qui sont en rupture, bien sûr, avec la République et la doctrine républicaine.
Et donc, il n'y en a pas eu beaucoup
quand même,
de temps.
Il y a quand même deux éléments, pardon. Un qu'il a évité soigneusement d'aborder pour ne pas prêter le flanc, justement, à toute une partie de l'opinion publique, voire de son électorat. Il a volontairement passé sous silence, parce que ce n'est pas sa façon de voir, la lutte contre l'immigration, par exemple. Oui. Pour lui, ça ne fait pas partie du tout. D'abord, il a toujours dit l'immigration est bienvenue en France,
c'est ce que disait tout à l'heure mon invité Damien Abad, des Républicains.
D'accord. Et il ne fait pas le lien, lui, contrairement à une certaine droite, avec l'islamisme radical.
On aurait encore beaucoup de choses à dire sur ce discours, évidemment. On en a déjà pas mal parlé dans les journaux d'Europe 1, on aura l'occasion d'y revenir. Je vous propose qu'on se retrouve dans un instant et on va changer complètement de sujet. On va partir aux États-Unis. Donald Trump, positif au Covid.
Europe 1, Isabelle Millet.
Il est 18h49 et c'est la suite de notre débat des grandes voix sur Europe 1 avec ce coup de tonnerre aux États-Unis. Donald Trump et son épouse testés positifs au Covid. Le président se met en quarantaine, la machine de guerre est grippée. Trump rattrapé par la pandémie dont il n'a cessé de nier les effets dévastateurs. Tout ça à 32 jours des élections et tout ça alors que Trump, il y a deux jours seulement encore, se moquait d'un certain Joe Biden qui portait le masque.
Je porte un masque quand c'est utile, je ne fais pas comme lui. À chaque fois que vous le voyez, il a un masque. Il pourrait être à 60 mètres de vous, il aurait quand même le plus grand masque que j'ai jamais vu.
C'est l'arroseur arrosé. Hein. On précise qu'à l'instant, Joe Biden communique, il dit qu'il a été testé négatif au Covid. Oui. Et il ajoute, j'espère que ça servira de rappel, portez un masque, maintenez la distanciation physique, lavez-vous les mains. Ça y est, là, il a carte blanche, hein, Joe Biden, il s'amuse lui. Hein.
Oui, alors après, il faut déjà attendre de voir les symptômes réels de Donald Trump. Parce que si jamais ce sont des symptômes bénins et qu'il s'en tire bien, bon, je suis prêt à parier qu'on le verra à nouveau fanfaronner dès sa sortie de quarantaine pour dire, voyez, j'ai fait ma quarantaine, mais je suis en pleine forme et ce virus n'est pas aussi terrible qu'on veut bien le dire. Je ne pense pas qu'il puisse jouer ce qu'avait obtenu en tout cas Boris Johnson au tout début, lorsque vous savez que Boris Johnson est classé tombé malade. Et pour le coup, ça avait été un peu lourd. Il y a eu quand même un effet de sympathie de l'opinion, alors que sa gestion du début de la crise était quand même très critiquée. Le fait qu'il tombe malade avait permis de retourner plutôt l'opinion dans un sens de bienveillance à son égard. Ça n'avait pas duré longtemps et après, il a été à nouveau critiqué. Là, dans le cas de Trump, je ne sens pas a priori ce mouvement de bienveillance, mais sait-on jamais.
En tout cas, Joe Biden A priori, il va surfer dessus, hein, Yannick Halimi. Hein.
Oui,
il aurait tort de s'en priver. Hein.
Avec les réserves qu'émet Guillaume Tabar, effectivement, mais la messe n'est pas dite, si je puis dire. Et puis, de toute façon, là, au jour d'aujourd'hui, les résultats restent quand même, enfin, les sondages, pardon, restent quand même balancés avec toujours cette grande expectative dans les fameux États, les swing États qui vont se déterminer.
En tout cas, ça va changer la donne. Il y a Biden qui va faire campagne, alors que jusqu'à présent, il était quand même très discret. Et puis Trump qui va être obligé de faire des visioconférences, des zooms.
Il lui reste Twitter.
D'ailleurs, il paraît que le message dans lequel il a tweeté qu'il était positif est le message qui a été le plus retweeté. Et Dieu sait pourtant qu'il a des retweets.
Un des effets dans la campagne, c'est que ça attire l'attention sur Trump. Et on sait à quel point la part d'audience est importante aussi dans le combat. Tout va dépendre effectivement de la maladie. Pour Trump, c'est un mauvais coup parce qu'il est censé être un homme fort, effectivement, et qui se riait du virus. Et là, il est rattrapé par le virus. Mais il peut aussi mettre en scène son triomphe contre la maladie. Donc, il va y avoir un storytelling, autrement dit, du coronavirus. Et alors, évidemment, l'hypothèse la plus terrible, c'est qu'il soit très malade.
Alors, justement, là, s'il tombe vraiment malade, qu'est-ce qu'on fait? On trouve un autre candidat. On sait que le vice-président, lui, en tout cas, n'est pas positif.
Le vice-président est prêt à relever le défi. Ça peut éventuellement aboutir à un report de l'élection.
On peut reporter l'élection.
Oui, on peut. De toute façon, le président ne prend sa charge qu'en janvier.
Donc, ce serait inédit, non ?
C'est déjà arrivé, le report. En revanche, ce qui n'est jamais arrivé, c'est qu'un candidat soit dans l'incapacité d'aller jusqu'au vote. Et ça, ce serait très embêtant parce qu'il y a déjà des Américains qui ont voté.
Oui, c'est ça le problème.
Ça pourrait inviter
tout le processus. Qu'est-ce qu'on va faire avec les votes électroniques ?
C'était déjà compliqué, ce scrutin. Oui. Ça rajoute une complexité supplémentaire.
Yannick Halimi, Guillaume Tabar.
Juste pour vous dire qu'il y a le vote dans 2 jours, mais il y avait aussi le second débat.
Oui, en Floride.
Alors, je ne sais pas quand prend fin sa quatorzaine elle-même.
En tout cas, il a annulé son meeting en Floride. Et il y a le second débat.
Assurer ce deuxième débat, c'est aussi...
De façon quand même plus structurelle, au-delà de la maladie grave ou pas, hein, du président.
Sachant qu'il est en surpoids, qu'il est assez âgé.
Écoutez, il est toujours vivant et apparemment.
Oui,
donc voilà, il n'empêche que, entre guillemets, électoralement tout de même, ça a terriblement, la gestion de la crise sanitaire par Donald Trump a terriblement fragilisé son électorat tout de même. Les derniers, les sondages quand même le montrent soit au coude à coude, soit en dessous de Joe Biden. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu énormément de décès. C'est notamment dans les catégories d'âge élevé qui ont été en grande partie, qui ont élu en grande partie Donald Trump il y a 4 ans. Et puis également les effets de la crise économique qui ont terriblement touché aussi les salariés, les classes working class, qui ont été ces électeurs, vous savez, du Middle West et des zones industrielles défavorisées, qui, elles, se retrouvent parmi les premières victimes des effets de la crise du coronavirus et qui en veulent terriblement à Donald Trump. Et
de ne pas
alors,
avoir
au contraire,
géré,
ce sont des terres de conquête, ces petites classes moyennes blanches, et semble-t-il une terre de conquête pour Joe Biden. Donc, vous voyez qu'on lui souhaite une bonne santé, bien sûr, à Donald Trump, mais tout ce qu'il a fait jusqu'à présent depuis le mois de mars ou le mois d'avril, il continue quand même à lui coller et à traîner ça comme un boulet. On verra ça, bien sûr, le 4 novembre.
Et puis la Floride, où il devait tenir son meeting ce soir, c'est aussi un état clé. Hein, donc, ça peut jouer tout ça, non ?
Oui, d'ailleurs, Yannick le rappelait très bien tout à l'heure,
disant que
l'élection, elle allait se jouer dans ce qu'on appelle les swing states, c'est-à-dire aux États-Unis, ce qui compte, ce n'est pas le score global, même on peut être élu en étant minoritaire en voix, mais de gagner chacun des États pour obtenir les grands électeurs qui ensuite élisent le président. Et la Floride fait partie de ces États disputés. En plus, c'est un État assez peuplé, donc ça rapporte beaucoup de grands électeurs. Et c'est là-dessus que va se concentrer la campagne. Alors, le fait de ne pas pouvoir aller sur place, c'est sûr que c'est handicapant pour Donald Trump.
En tout cas, on va suivre ça comme un feuilleton à l'américaine avec beaucoup d'attention.
Un Dallas.
C'est notre Dallas. On aura l'occasion d'en reparler, évidemment. Merci beaucoup à vous, les grandes voix du vendredi. Guillaume Tabar du Figaro, Yannick Halimi du Parisien et Sylvain Courage de l'Obs. Merci d'avoir été avec nous ce soir en direct sur Europe 1.